Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plane's dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle émission de cinéma de Transistor, d'étoiles plein les yeux. L'idée est simple, toutes les semaines, si le temps le permet, deux chroniqueurs triés sur le volet et moi-même nous retrouvons à la sortie d'une séance de cinéma pour débattre du film et vous faire partager nos impressions. En fin d'émission, les sorties de la semaine vous seront brièvement présentées, mais en attendant, je suis avec Pauline et Hugo pour parler d'un film d'animation actuellement en salle, Avril et le monde truqué, réalisé par Christian Desmarres et Frank Ekinci, avec un univers graphique créé par Tardi. Rapide résumé tout d'abord, le film est une uchronie. Dans un monde où les scientifiques disparaissent mystérieusement, tout est resté dans le 19e siècle, à l'âge du charbon et de la vapeur. Avril, descendante d'une famille de chimistes, se lance à la recherche de ses parents, accompagnée d'un chat cynique et un télo, d'un grand-père loufoque et d'un jeune voyou. Le film est à la fois une aventure menée tambour battant et une véritable réécriture du monde de l'époque. Il regorge de références et d'inventions fantaisistes qui créent un véritable univers servi par le dessin inimitable de Tardi et les voix de Marion Cotillard, Philippe Catherine et Jean Rochefort, entre autres. Bonjour Pauline, bonjour Hugo.
Bonjour. Bonjour.
Alors qu'est-ce que ce film vous a inspiré du coup ?
Beaucoup d'émotions, non, enfin si, mais du coup, non, c'était vraiment un très beau film d'animation, alors comme toujours, quand ça a plu, c'est dur de se montrer critique, donc j'espère que les quelques commentaires que nous apporterons ici, puisque je crois qu'on est assez unanime sur la qualité du film d'animation, eh bien ne se retrouveront pas à être un petit peu trop consensuels. Donc bah, moi, je connaissais pas très bien Tardi à la base déjà, et donc du coup déjà j'étais surprise par effectivement ce côté très BD, tu disais tout de suite, donc il a créé l'univers graphique et c'est vrai que il me semble que ce film d'animation, certes, et voilà, c'est un dessin animé, etc., mais déjà il garde quelque chose de la BD, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y avait une forme d'alliance entre le côté BD et le côté film, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, enfin je sais pas.
Ouais, si, il y a ça qui ressort vraiment. C'est pas seulement une adaptation d'une BD ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de mieux dans les BD qu'on essaie de mettre au cinéma. Et même dans les graphismes, ça se ressent pas mal. On a des choses qu'on n'a pas dans du cinéma d'animation d'habitude. Par exemple, un truc qui m'a un peu pas choqué, mais le fait que les nez sont toujours dessinés plus ou moins de profil, comme dans les BD en fait, mais que les personnages bougent quand même, et donc le nez va changer de côté selon les images.
Oui, c'est vrai que c'est un dessin animé à l'ancienne, en 2D. Il y a pas d'effet 3D particulier dans le film. Et le graphisme est assez saisissant.
Oui, puis c'est contours noirs aussi, oui, souvent, autour des objets ou des personnages. Mais ça ne retire rien du coup à quand même la vivacité, en fait, du film. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, voilà, je ne m'y connais pas suffisamment sur tout ce qui est question graphique, graphisme, pour pouvoir en parler plus avant. Mais...
Le graphisme est typique de Tardi. On a ces personnages vraiment tout en rondeur. Et oui, le personnage principal d'Avril avec ce visage, l'univers de Tardi est vraiment très très présent, et on se faisait la réflexion que les lumières ont un côté très sombre, Triplette de Belleville, avec cette rondeur en plus qu'apporte le dessin de Tardi.
Oui, c'est vrai, du coup ça allie le côté, on va dire, un peu obscur, un peu dépressif, qui est lié aussi à la situation dans le film, voilà.
Oui,
un monde
ville,
qui va à volo, une jeune fille qui perd sa famille dans des circonstances
terribles. La suit partout avec
terribles.
Le charbon.
Voilà. Et de l'autre côté, la rondeur, les courbes, ce côté un peu doux et finalement chaleureux, en fait. C'est ça qui... Il y a une forme de...
Ouais. Oui, et puis cette rondeur qui... Oui, la rondeur est portée par les personnages, finalement, dans un monde qui va à volo et qui est noir de suie et de fumée.
Je crois que c'est pas un monde aseptisé, hein, c'est pas ça, mais je crois que l'image qui était donnée de ce monde était assez, assez pauvre, très technique, en fait, très, très industriel, très...
En fait, le monde s'est vraiment arrêté en 1870, et là, plus personne n'a rien fait de nouveau... Ouais. À part des innovations avec de nouvelles machines à vapeur. Mais
C'est vrai qu'il y a une variété de machines à vapeur, toutes plus bizarres les unes que les autres.
Ouais.
qui y a une grande inventivité dans
qui laisse songeur.
Oui.
Mais derrière
c'est
le
espèce de véhicule bizarre des policiers, ces bicyclettes volantes.
Mais derrière le reste c'est pas développé, on n'a pas une sorte de renouveau des arts ou des sciences. Ou... C'est comme si les sciences auraient pu totalement empêcher les arts de se développer.
Mais en fait oui, c'est ça, c'est comme si s'il n'y avait pas de conditions favorables à une forme, enfin une société avec des arts, avec enfin voilà, après encore une fois, c'est pas le sujet du film, donc c'est voilà, c'est vraiment un monde qui est en fait pour ça, c'est un enfin moi je crois que c'est surtout ça qui m'a choqué dans ce monde triste, au-delà du problème de la suie qui est bien sûr terrible, de ce enfin de ce cette obscurité, enfin voilà, de cette saleté, c'est aussi cette forme de il y avait pas de vie en fait.
Mais il est truqué pour tourner en rond quoi, c'est
ouais, ouais. C'est ça.
Il tourne en rond et
mais toute la part de vie est portée par ces personnages.
Tout à fait. Et en même temps, ça montre aussi une volonté de ne pas tomber dans une forme de manichéisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce film, il est fondé vraiment sur le motif du contrepoint, avec voilà, ce côté obscur d'une part, ce côté, on va dire, plus chaleureux, rond, doux d'autre part. Et on en parlait donc, enfin, à la sortie du film, le fait que les personnages sont souvent aussi par binôme ou par couple. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir évidemment Avril d'une part, qui est le personnage gentil, héroïque, etc. Et de l'autre côté, son Julius, qui en fait se révèle finalement être un bon bougre, mais qui à la base n'est rien d'autre qu'un voyou. Les parents de Avril, qui en fait donc sont bien sûr le père et la mère, et le père qui semble être le résistant contre ceux qui ont enlevé les scientifiques. Et de l'autre côté, la mère se semble en collusion avec les ravisseurs en fait. Donc à chaque fois, on a l'impression que les personnages sont toujours par binôme, notamment homme-femme, et que d'un côté il y a un gentil, de l'autre un méchant, mais finalement on s'aperçoit au fur et à mesure que les choses sont pas si simples.
On a toujours un personnage qui est vraiment absolument pas pragmatique, et l'autre qui est plus à faire des
concessions, des négociations avec la réalité, en fait. Tout à fait. En fait, oui, tout à fait. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Il y a ce côté contrepoint, comme je disais tout de suite, mais effectivement, avec cet aspect de, en fait, ils sont tous, enfin, personne n'est vraiment méchant, ils sont tous un peu gentils. Mais en fait, il y a toujours un personnage, comme tu dis, qui est plus pragmatique contre un idéaliste, en fait.
Du coup, oui, ce contrepoint, toujours qu'on trouve, il est aussi à rapprocher du thème qui est celui de la science. Et finalement, il y a un message qui est quand même très très fort sur le rôle de la science, sur ce qu'est la science. Science qui est toujours montrée comme une espèce de magie finalement. Mmh. Le monde est divisé entre les scientifiques qui maîtrisent la science et ceux qui ne la maîtrisent pas. Il y a ceux qui ont ce pouvoir, ceux qui ne l'ont pas. Et la science est neutre et tout dépend des utilisations qu'on en fait. C'est toujours cette ambivalence sur les personnages qui porte tout ce message sur la science. Mmh.
Donc il y a un côté aussi, je pense, réflexion sur le statut du scientifique et le lien d'une forme de sacré scientifique au profane non scientifique, quoi.
On a quand même l'image du sacré, vrai, c'est dans le sens où cette sorte de science est passée de père en fils qu'on voit, et après les scientifiques sont tous reclus entre eux.
Oui, il y a vraiment...
Pas que quelqu'un peut venir et devenir scientifique comme ça, sans que soit prédestiné.
Et le progrès technique, en soi, n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend ce qu'on en fait.
Mais après, en fait, c'est aussi l'absence de progrès technique qui fait qu'on se concentre seulement sur une ressource, qui est le charbon, après en utilisant les arbres pour créer du charbon. Ils expliquent un peu le fait qu'on soit seulement sur cette ressource par le fait qu'il n'y ait plus d'inventions et plus de moyens d'aller vers autre chose.
Il y a de ça, mais il montre aussi que à la toute fin, cette petite pique, on a découvert le pétrole, enfin une énergie propre, c'est la fin de la guerre de l'énergie.
C'est... Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est une société qui repose sur le charbon, le bois, juste pour que les auditeurs se rendent compte.
Et cette petite pique à la fin qui montre quand même que c'est pas la question du charbon que
oui, le problème c'est l'énergie, c'est la consommation, c'est l'impact sur la nature, c'est...
Et ça pose des problèmes beaucoup plus universels, beaucoup plus du coup.
C'est un problème éternel qu'on peut pas régler en fait.
Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce deuxième monde, cette espèce de jungle luxuriante.
Oui, qui naît sur la Lune, du coup, c'est ça. Tu veux dire tu parles de sur la Terre là.
Oui. Et qui est vraiment en opposition complète avec le monde de Paris et cette ville surpolluée.
Bah oui, au final, le message est-il si univoque, c'est-à-dire que d'un côté on a des villes, on a une ville notamment Paris, un monde qui est en proie, qui s'essouffle quoi, et de l'autre côté on a une jungle, d'accord, très belle avec la préservation des plantes, etc. Mais quelle forme de vie autre cela permet-il, en fait?
Oui, finalement, elle est splendide, cette jungle, mais elle a un côté figé, en quelque sorte. Même s'il y a la vie partout.
On ne voit même pas d'animaux, d'ailleurs, hein, à part les varans.
Et finalement, les personnages auxquels on s'attache, c'est des humains qui viennent de cette ville, pourtant si sale, etc. Et c'est peut-être aussi un appel à retomber dans la réalité un petit peu...
Bah, à dire qu'à partir du moment où les humains veulent effectivement vivre confortablement et avoir voilà, un certain avenir, on va dire, ils ont aussi des besoins qui passent par une forme de destruction inévitable de la nature. La question étant, de toute façon, celle de l'équilibre et des limites de part et d'autre. Donc... Après oui, le message n'est peut-être pas si écologiste au sens puriste que ça.
Il est particulièrement nuancé, finalement, pour un film pour enfants.
Ouais.
Peut-être on pourrait quand même revenir sur cet univers qui a été créé, parce qu'au niveau de la création, il y a quand même un travail qui a été très très poussé, que ce soit sur le graphisme, on en a parlé en introduction, mais aussi sur... toutes ces petites touches qui rendent cohérent cet univers,
oui.
Ces deux tours Eiffel,
oui.
Et qui se sont transformées en espèce de gare pour téléphérique, l'immense statue de Napoléon III.
Oui. Et la statue de la liberté qui est remplacée par un cow-boy.
Moi, j'ai bien aimé dans ce film aussi les clins d'œil, les petites choses, par exemple, les affiches. Parfois, on voit des affiches placardées, et notamment, il y a un moment, par exemple, en fait, c'est une. C'est carrément la même affiche, mais en fait, ils ont juste changé très, très, très légèrement le nom. C'est Minier au lieu de Meunier, éviter les contrefaçons. Et du coup, ça m'a fait rire parce que, voilà, Avril est le monde truqué. Ça fait écho à quoi ? Ça fait écho aussi à une contrefaçon. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on est dans une uchronie, effectivement, mais c'est explicitement dit. Avril est le monde truqué. D'ailleurs, au tout début, ils nous disent, voilà, finalement, tout ça n'a pas lieu. Einstein, machin, n'existe pas, enfin, etc. Et donc, tout est explicite, en fait. Et je me suis interrogée sur le statut de cette explicite, enfin, justement, de ce côté explicite. Et même le monde en lui-même qu'ils inventent est lui-même un monde de trucage. Du coup, à la fin, on ne sait effectivement plus à qui se fier, en fait. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qui est gentil, qui est méchant.
C'est vrai que c'est vraiment truffé de références qui rendent le film savoureux pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et qui nous l'ont rendu très très savoureux,
ouais,
je pense.
C'est
vrai que l'écho triplette de Belleville est assez clair. Moi, je verrais bien dans cette forêt amazonienne un écho avec aussi des gens plutôt explorateurs et inventeurs, un écho à Là-haut, le film d'animation ici.
Voyage au centre de la Terre.
Voyage au centre de la Terre, où on disait également le château ambulant, ouais, Miyazaki.
Miyazaki, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de références aussi, ouais. Même dans la forme des personnages au début, ou les poursuites.
Non, beau film. Et puis bon, les voix quand même.
Avec une mention spéciale pour Philippe Catherine, qui double le chat. Et c'est vrai qu'il a une voix qui est très particulière et qui passe vraiment très très bien dans ce personnage, un petit peu déjanté, un petit peu précieux aussi par certains aspects. Et pour terminer, 2-3 petits conseils pour vos prochaines sorties cinéma sont encore en salle en ce moment. Le nouveau film de Mai Wen, Mon Roi, une autopsie d'un couple consumé assez rapidement et assez passionnément. The Lobster de Yorgos Lanthimos, une espèce de fable bizarroïde sur le couple également, dans un monde où le couple serait devenu une obligation. Le fils de Saul de Laszlo Nemes, film manifestement particulièrement marquant et éprouvant, qui retrace le périple d'un Sonderkommando dans l'horreur d'Auschwitz. Et sorti cette semaine, El Club de Pablo Larraín, thriller chilien qui raconte un huis clos au sud du Chili de prêtres reclus par l'église. Également L'Idiot, sorti la semaine dernière, qui propose une réflexion critique sur la Russie d'aujourd'hui. Et enfin sortiront donc aujourd'hui, mercredi 25 novembre, X-Canul, réalisé par Jairo Bustamante, film guatémaltèque très attendu, qui a vraiment fait la sensation au Festival de Berlin et qui semble être d'une très très grande humanité en racontant la vie d'Indiens guatémaltèques. Et le film très attendu également de Terrence Malick, Night of Cups, qui fera sans doute encore beaucoup parler les critiques et dont nous parlerons peut-être prochainement dans cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine dans les salles obscures. Merci Pauline, merci Hugo, et à la semaine prochaine, si tout se passe bien, dans D'étoiles plein les yeux.